France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Lionel Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous co-signez dans le magazine Sans Froid qui sort le 28 juin une enquête consacrée à ce que vous appelez l'arnaque du siècle, des milliards de dollars qui auraient été détournés d'un fonds d'investissement malaisien, ce qui donne lieu à une gigantesque enquête planétaire à laquelle participe notamment la France. Alors, faut expliquer de quoi il s'agit. D'abord, tout part de la création d'un fonds, ce qu'on appelle un fonds souverain, c'est-à-dire avec de l'argent d'un État, un fonds souverain malaisien qui a été créé en 2009.
Exactement. Il est créé par le premier ministre malaisien de l'époque, Najib Razak, qui a été renversé récemment en mai 2018. Il crée ce fonds malaisien pour moderniser le pays. Il le crée via une joint venture avec l'Arabie Saoudite.
C'est-à-dire que chacun va mettre de l'argent au pot.
Chacun va mettre de l'argent au pot. 1,5 milliard d'un côté, 1 milliard de l'autre. Sauf que cet argent va disparaître. En l'occurrence, 700 millions de dollars vont disparaître. Derrière cette disparition, on trouve plusieurs acteurs, à savoir un sulfureux homme d'affaires qui s'appelle Joe Lo, un homme d'affaires hongkongais. On trouve le gendre de Najib Razak, le premier ministre malaisien, qui n'est autre que Riza Aziz, qui est un grand producteur hollywoodien. C'est celui qui a produit le Loup de Wall Street. Et cette petite équipe, par une sorte de jeu de bonneteau dans lequel tout le monde gagne, va se partager ces sommes considérables qui vont être ensuite réinvesties dans différents pays. C'est pour ça que aujourd'hui, 14 États, 14 polices et parquets nationaux sont sur cette affaire.
Dont le parquet national financier. Alors, au début, donc, on voit les Malaisiens qui s'associent avec les Saoudiens. Mais comme le scandale commence à être connu, les Saoudiens vont se retirer. Et va entrer en jeu un autre acteur.
Exactement. Un personnage haut en couleur qui est alors le grand argentier d'Abu Dhabi qui s'appelle Khadem Al-Kubaisi. Khadem Al-Kubaisi est une sorte, j'allais dire, de caricature des hauts dignitaires des pétromonarchies, à savoir habit traditionnel le jour et le soir, jet-setter, prince de la nuit même, puisque c'est d'ailleurs Khadem Al-Kubaisi, le premier propriétaire de boîte de nuit aux États-Unis. Il avait d'ailleurs aussi ses habitudes en France, notamment à Saint-Tropez où il était bien connu.
Et c'est lui qui organise la fête des 40 ans de Leonardo DiCaprio.
Une fête qui a fait scandale puisque on avait retrouvé rien que sur les murs de la discothèque Akasan pour plus de 1 million de dollars de champagne, rien que sur les murs.
Ah oui, alors il faut dire que ce personnage, Khadem Al-Kubaisi, a aussi beaucoup d'avoir en France. Il a acheté 7 villas ou appartements à Saint-Tropez, il a des complexes de logements sur la croisette à Cannes, il en a un peu partout, dans toutes les villes de la Côte d'Azur et de la capitale.
Exactement, pour plus de 120 millions d'euros en valeur d'acquisition.
Oui, parce que quand on fait le total, je parlais de la croisette, mais il y a aussi deux maisons de luxe à Ramatuelle, que vous citez, deux immeubles avenue Diéna à Paris, sans parler sans doute d'autres, notamment avenue Raphaël, toujours à Paris. Avec en toile de fond la question, est-ce que c'est effectivement bien, ont été acquis avec de l'argent détourné de ce fameux fonds malaisien?
Alors là, le parquet national financier est toujours en train d'enquêter, donc on est encore dans la procédure. Nous aurons sans doute quelques informations dans les mois à venir. Khadem Al-Kubaisi était clairement visé par toutes les polices. Il est aujourd'hui en résidence surveillée, enfin, à Abu Dhabi, mais assez libre de ses mouvements. Il a juste une interdiction de sortir du territoire, ce qui est sans doute mieux pour lui, puisque beaucoup seraient intéressés à l'entendre.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'en 2014, donc il y a déjà 4 ans, le fonds souverain affichait du coup des pertes de 11 milliards de dollars. Là, on est en train de parler de sommes absolument astronomiques. Et vous le soulignez, donc le FBI a ouvert une enquête, la justice enquête aux États-Unis. Pas seulement pour ça d'ailleurs, la justice enquête aussi sur un certain nombre de banques qui auraient recyclé de l'argent venant de ce fonds.
Alors, il y a plusieurs banques qui ont été entendues, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo ont été entendues par la justice américaine, qui s'intéressent aussi au rôle de Goldman Sachs, qui aurait touché 500 millions de dollars de frais de courtage pour l'organisation de l'émission de deux obligations bidons.
Ouais. Alors, au détour de votre article, vous citez aussi quelques noms de politiques français ou d'hommes d'affaires français. Alors là, attention, il ne s'agit pas de les mettre en cause dans cette affaire, simplement on se rend compte qu'il y a des liens. Il y a des liens entre des personnalités citées, notamment ce Khadem Al-Kubaisi, et des politiques français, notamment Nicolas Sarkozy, qui était très proche de, enfin proche en tout cas, de ce Khadem Al-Kubaisi.
Khadem Al-Koubaizi était celui qui lui finançait ses conférences à Abu Dhabi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Nicolas Sarkozy était allé plusieurs fois à Abu Dhabi donner des conférences.
Dont vous rappelez qu'on estimait qu'elles étaient rémunérées à 100 000 euros la conférence.
Oui, oui.
Mais il y a plus que ça, il lui a proposé plusieurs fois d'investir dans des intérêts français, notamment dans la société de son ami Stéphane Courbit, le producteur audiovisuel français.
Exactement. Et Nicolas Sarkozy avait également voulu créer un fonds souverain en France en 2009, qui s'appelait le Fonds stratégique d'investissement, le FSI, dans lequel il ne faisait entrer que Abu Dhabi. Donc c'était une sorte de cadeau fait à Abu Dhabi, mais il se trouve que peu d'opérations,
ça a capoté. Et finalement, toutes les tentatives de faire investir Khadem Al-Koubaizi dans des intérêts français ont capoté, faut le préciser. Autre nom qui apparaît, Bernard Arnault, qui a siégé au conseil consultatif de ce fameux fonds malaisien.
Exactement, il a siégé dans ce fonds durant 3 ans, donc c'est quand même assez long. Pour autant, est-ce qu'il a véritablement siégé ou est-ce qu'il avait juste c'était juste une opération d'image pour apparaître sur ce fonds?
Oui, parce que lui, il vous répond qu'il n'a jamais assisté à la moindre réunion, qu'il était là à titre consultatif, ce qui est tout à fait possible, du reste.
Ce qui est tout à fait possible, mais effectivement, son nom apparaît dans le conseil consultatif du fonds.
Il en a fait partie, en tout cas, dans l'organigramme. Et puis, il y a un autre personnage que vous citez, c'est Bernard Squarcini, l'ex-superflic de Nicolas Sarkozy. Alors, lui, il a travaillé pour Khadem Al-Koubaizi.
Il était patron de la DCRI. Il est sorti en 2012 et il a créé des cabinets de renseignement privés et il a été effectivement approché par Khadem Al-Koubaizi pour de, si ce n'est neutraliser, de faire en sorte que certains témoins ne parlent pas dans cette affaire.
D'enquêter en tout cas sur des témoins qui gênaient, on peut dire.
Exactement.
Al-Koubaizi, tout ça est un milieu très particulier, bien éloigné de ce que vivent la plupart de ceux qui nous écoutent. C'est une enquête qui va durer des années.
C'est une enquête qui risque de continuer. Cela fait 3 ans que nous travaillons avec mon confrère et ami Jacques Duplessis sur cette affaire. Il y aura sans doute encore de nouveaux développements.
Merci Lionel Lévy, merci de nous avoir raconté ça. Alors je rappelle que cette enquête est à lire en intégralité dans le magazine Sang Froid qui sort donc le 28 juin prochain.